Donc, moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation d'enregistrement. Ça, c'est merveilleux. Hein, on n'est pas dans la situation de la diffusion, mais on est dans la situation de l'enregistrement grâce à Alain Michon. Donc, voilà, c'était inattendu. Enfin, je n'avais pas pensé que ça allait se passer comme ça. Mais en réalité, vous pouvez prendre des notes, mais on va enregistrer vos voix. Et on va m'enregistrer moi aussi. Et donc, si on veut réécouter notre séance, on pourra le faire. Voilà. Alors, je vais procéder de la façon suivante. On va entendre vos voix dire, chacun, chacune va dire sa question. Après, moi, je vais poser un cadre pour répondre à toutes vos questions et parler de ce qui me paraît essentiel. Ensuite, je reprendrai une par une et je donnerai des réponses les plus précises, les plus circonstanciées que je peux à chacun d'entre vous. Parce que chaque question a aussi un intérêt. Elles sont pas toutes, je ne peux pas toutes les regrouper. Voilà. Donc, nous vous écoutons.
Comment avez-vous commencé la radio, quand, où et avec qui?
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier?
Sur quel thème travaillez-vous alors?
Quels sont les côtés positifs et négatifs de la radio?
De votre vie dans la radio.
Quels étaient votre métier dans la radio?
Est-ce que c'est un métier intéressant? Recommence, dis-le bien.
Quel était votre métier dans la radio? Est-ce que c'est un métier intéressant?
Dans quel lieu, studio, enregistrez-vous votre émission?
Est-ce que vous travaillez tous les jours?
Faisiez-vous des émissions en direct ou bien enregistrées?
Pendant vos interviews, vous est-il arrivé de bafouiller ou de vous tromper pendant un enregistrement?
Avez-vous travaillé dans une ou plusieurs chaînes de radio étrangères? Si oui, lesquelles?
Quand étiez-vous à l'antenne et combien de temps?
Pouviez-vous entendre l'émission finie?
3. La mise en place d'une émission radio. Une émission demande-t-elle beaucoup de fonds pour la mettre en place?
Quelles qualités requiert la création d'une émission? Quelles études faut-il faire?
Comment se passe un enregistrement radio en général? Y a-t-il différentes manières de le faire?
Quels sont les différents types d'émissions?
Combien de personnes a-t-on besoin pour monter une émission radio et lesquelles?
Non. De combien?
De combien de personnes a-t-on besoin pour monter une émission radio et lesquelles?
Qu'est-ce qu'on peut faire de la radio chez soi?
Quels sont les préparatifs avant de débuter une émission de radio? Quel est le matériel nécessaire?
Combien de temps faut-il pour réaliser une émission du début à la fin?
Peut-on faire ce que l'on veut? Y a-t-il de la censure?
Est-ce que les textes dits sont préparés à l'avance ou improvisés? Est-ce qu'il y a des thèmes imposés?
Comment attirer l'attention des auditeurs?
Comment se passe la sélection des auditeurs? Qui prend les appels?
Comment cela se passe-t-il lorsqu'il y a un blanc?
Est-ce qu'on interview seulement des célébrités?
Le monde de la radio. À quelle date la radio est-elle apparue?
Gagne-t-on beaucoup d'argent à la radio?
Quels sont les différents types de radio?
Quels sont les métiers en dehors de l'enregistrement?
De quelle origine provient le mot radio?
Est-ce que cela change la voix quand elle passe à la radio?
Peut-on avoir n'importe quelle voix pour faire de la radio?
Peut-on créer sa propre chaîne radio? Si oui, quelles sont les démarches pour y parvenir?
Est-ce qu'il y a un directeur? Est-ce qu'il y a une hiérarchie?
Comment connaît-on le nombre d'auditeurs?
Voilà, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions qui portent sur la radio en tant qu'invention technique. Et il y a pas mal de questions aussi sur comment on fait de la radio. Et puis, il y a quelques questions assez rares, finalement, où on demande pourquoi la radio. Or, je vais commencer par là, enfin. D'abord, un petit préalable historique. Un ingénieur, Édouard Branly, a réalisé les premières expériences de radioconduction en 1890. Alors, vous demanderez à votre professeur de physique de vous expliquer ce qu'est la radioconduction. C'était à partir de trois éléments, un galvanomètre, un tube à limaille et une pile électrique. 10 ans plus tard, Marconi, un autre ingénieur, ami d'ailleurs de Édouard Branly, réalise la première liaison de télégraphie sans fil entre une station installée à Vimereux dans le Pas-de-Calais et une autre près de Douvres, donc en Angleterre, et à travers la Manche. Des récepteurs sont utilisés à terre et à bord de deux navires équipés de radioconducteurs construits par Édouard Branly. Édouard Branly, en 1905, présente à l'Académie des sciences une application du radioconducteur qu'on va appeler la télémécanique sans fil, la TSF. Voilà. Donc, ensuite, en plus proche de nous, je vais vous parler de la maison de la radio. Pourquoi il existe en France une maison de la radio? Elle a été inaugurée en 1963. Elle a une architecture tout à fait particulière, puisqu'il y a une grande tour entourée d'une grande couronne. Et au centre, il y a ce qu'on appelle la petite couronne qui est au pied de la tour. Bon. Et pourquoi elle a cette forme, la maison de la radio? Parce que l'architecte a voulu imiter la forme d'un tourne-disque. Donc la tour, c'est le bras qui se pose sur le disque, et la couronne, c'est le disque. Donc c'est une architecture qui mérite d'être, c'est une architecture qui parle du son, qui nous parle du son. En 1963, le général de Gaulle, qui était bien placé pour savoir quel rôle historique pouvait jouer la radio, est venu inaugurer cette maison. Il a dit « Pourquoi ? Pourquoi la radio ? Pourquoi la radio ? » À tant d'idées, de mots, d'images, de sons lancés sur les ondes merveilleuses, fallait-il une maison ? Oui. En effet, la question, c'est où rencontrer les voix et la parole, c'est-à-dire l'univers des échanges humains, eh bien, on les rencontre sur le chemin des ondes. Et la raison d'être de la radio, ce n'est pas simplement la communication ou l'information, sa raison d'être, au fond, c'est de relayer la voix et la parole. La chaîne à laquelle j'ai appartenu, France Culture, crée des émissions culturelles qui ont tout un point commun, c'est la mise en scène de la voix et de son décor au service non pas de l'information, mais plutôt au service des livres et de toutes les productions de l'esprit. On fait des émissions dramatiques, on fait des fictions, on fait des reportages, on fait des documentaires, on fait des émissions musicales, on en fait sur la poésie. Il y a des formes très différentes. Il y a l'entretien, il y a le débat, il y a la chronique, il y a le magazine, il y a l'interview brève, hein, qui est la rencontre avec quelqu'un sur une actualité. Bon. Par exemple, une émission importante le matin sur France Inter, il y a 2 heures d'émission avec Patrick Cohen et d'autres. On passe 2 heures le matin à recevoir des invités sur l'actualité, mais pour en donner quoi? Pour en donner l'analyse, le commentaire. Alors, la voix. C'est important de parler de ça, la voix. Il y a quelques questions qui portent sur la voix. Est-ce que cela change la voix quand elle passe à la radio? Oui. La voix à la radio, ce n'est pas ma voix naturelle. C'est un artefact. C'est un produit de la technique, intensifié, magnifié par la technologie. Peut-on avoir n'importe quelle voix pour faire de la radio ? Oui. Il n'y a pas de voix spécialement radiophonique. Toutes les voix sont radiophoniques. La radio peut faire place à toutes les voix. Je vais vous citer un grand cinéaste, un grand artiste qui s'appelait Robert Bresson. Robert Bresson a dit « La voix, c'est le plus beau fruit de l'arbre humain. » Et la radio, c'est au fond le médium idéal pour la voix. Car c'est un lieu privilégié où on peut encore, aujourd'hui, laisser parler les gens selon leur rythme, selon une cadence où on prend son temps. La radio, c'est pas seulement capter les flashs dans la rapidité, la succession ininterrompue des événements. C'est s'arrêter, c'est écouter, prendre le temps d'écouter quelqu'un, une ou deux personnes, ou plus encore. Un paysage sonore, par exemple, comme Alain Michon en propose aux élèves ici. Personnellement, je considère que nous sommes sevrés, c'est-à-dire en grande partie privés, de la parole. La parole nous manque. La musique est partout. Je suis sûre que quand vous écoutez la radio, vous écoutez plutôt de la musique. Peut-être que d'autres, que certains écoutent un peu aussi des voix d'animateurs radio qu'ils aiment bien, des émissions de parole. Mais je pense que vous écoutez beaucoup de la musique. La musique est partout, c'est bien. Mais la parole, elle est où ? La parole des écrivains, la parole des comédiens, la parole des chauffeurs routiers, la parole des gens qui sont morts. Il y a en France un dépôt légal. C'est-à-dire que toutes les émissions qui sont diffusées sur les ondes du service public sont conservées, ou pratiquement toutes, après un petit écrémage. Et particulièrement celles de France Culture qui sont presque toutes conservées. Il y a les archives de la radio qui sont conservées à l'INA et à l'INATEC de France, à la grande bibliothèque François Mitterrand qui se trouve à Paris. On y conserve des émissions depuis 1920. C'est une mémoire considérable. Des centaines d'heures. Il y a des entrepôts dans la plaine de la Brie, si vous voulez aller voir. Des entrepôts immenses. On a gardé la voix humaine. Grâce à la radio, on peut entendre encore aujourd'hui le cri des marins anglais au moment de la déclaration de la guerre contre l'Allemagne, qui est un son magnifique, une clameur. Hein. On peut entendre les messages de Radio Londres « Dans la plaine est un grand arbre » qui déclenchait les opérations de guérilla en 1944, au moment du soulèvement et de l'insurrection nationale demandée par le général de Gaulle. Des grands intellectuels résistants, des poètes, etc., ont fait de la radio de résistance pendant la guerre et ce sont eux qui ont plus ou moins fondé les toutes premières équipes du service public après la Deuxième Guerre mondiale. Notamment le célèbre, son nom m'échappe, il me reviendra. Où trouver la voix des grands intellectuels qui ont fait notre histoire ? André Gide, François Mauriac, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, à la radio. La voix des poètes. Et c'est autre chose que d'entendre un poème par celui qui l'a écrit. Par exemple, Le Pont Mirabeau par Guillaume Apollinaire. Nous avons Blaise Cendrars qui se passionnait pour tous les bruits du monde. Il est un merveilleux collectionneur de sonorités, de musique du monde. René Char, les grands peintres, Pablo Picasso, Alberto Giacometti. Il y a des entretiens qu'on peut écouter et réécouter indéfiniment, tant cette parole résonne de proximité et d'intensité. Parler à la radio, c'est quand même pas exactement se laisser aller au flot de la parole. C'est profiter d'un moment, bref, une heure, une demi-heure, cinq minutes, pour dire et communiquer ce qu'on a à dire. C'est se rassembler sur soi-même, se mobiliser d'une façon très intense, qu'on soit l'intervieweur ou l'interviewé. Et en même temps, se laisser aller au risque de la parole. C'est un exercice sans filet, surtout quand c'est en direct, où vous ne pouvez pas vous corriger. Mais il y a beaucoup d'émissions, et j'en ai fait essentiellement sur ce mode-là, qui sont du faux direct. Du faux direct, c'est-à-dire vous êtes par exemple en situation, imaginons que Alain me pose des questions, ou vous-même, que Alain Michon me pose des questions, que Suzy Wiesbaumer me pose des questions, que vous, à titre individuel, vous me posez des questions. Nous prendrions le temps avec un chargé de réalisation pour nettoyer la parole, effacer les scories, enlever les passages faibles, supprimer un passage entier parce que l'invité va vouloir se censurer. Il va dire non, ça je vous l'ai dit au micro, mais je ne veux pas que ça figure dans l'émission, etc., etc. Il va y avoir un travail. Ça, c'est le faux direct. Mais le faux direct, c'est quand même un petit nettoyage assez rapide. Hein. Il y a aussi des émissions beaucoup plus sophistiquées qui sont fondées sur la parole et son habillage, un décor sonore, du bruitage, des ambiances, des musiques et du mixage. On va mixer sur plusieurs pistes les sons ensemble. Voilà. On peut dire que, en tout cas, moi, la radio que je connais, celle dont je peux vous parler, c'est une radio où il y a une qualité de conversation qui peut évoquer les grands échanges épistolaires entre les créateurs. Vous savez, on sait que George Sand a correspondu avec Gustave Flaubert. On sait que Simone de Beauvoir a été non seulement la compagne de Jean-Paul Sartre, mais qu'ils se sont écrits beaucoup de lettres. C'est une analogie que je fais là maintenant. L'art de la radio, c'est un peu l'art des salons du XVIIIe siècle où les grandes dames de la bourgeoisie ou de l'aristocratie invitaient des intellectuels de l'époque et ont débatté des idées. Et les salons ont fait l'histoire, notamment ont favorisé le mouvement des Lumières et la diffusion des idées des philosophes. Il y a un peu de ça dans la radio que moi, je connais. Et il y a aussi cet esprit des lettres, des correspondances. On réfléchit à ce qu'on dit, on se répond, on échange des idées, mais on a un souci du bien parler, de la bonne formulation. C'est pour ça que je vous faisais corriger. Je vous faisais corriger quand vous me lisez vos questions. Vous lisez une question, elle doit être impeccable. On bafouille pas. Mais si on a un passage à vide, un moment difficile, et il y en a toujours, on se pose, on s'arrête. Des fois, on arrête l'enregistrement, quand c'est possible, quand on n'est pas en direct. On arrête l'enregistrement, on se repose cinq minutes, on reprend ses idées, on retrouve son fil, l'invité s'arrête aussi, et on recommence. Et parfois, on recommence une question. Et on apprend aussi beaucoup à insister sur ces questions. Mais j'y viendrai tout à l'heure. Donc, la voix, la parole. Une émission littéraire, par exemple, qu'est-ce que ça peut être sur France Culture ? C'est un échange entre la personne qui interviewe et son invité. La personne qui interviewe doit pouvoir formuler, savoir repérer la force d'un livre, les résonances d'une histoire, d'un récit. Et on lit aussi des textes à la radio. On les lit avec des comédiens viennent lire des textes littéraires à la radio ou des textes savants aussi. Ensuite, l'auditeur se fait sa propre lecture silencieuse et son imaginaire demeure libre. Vous voyez, c'est dans l'écoute. L'écoute est une sorte de lecture, si on veut, mais une lecture silencieuse. Voilà. Ni la lecture comme quand on lit à voix haute ou quand on apprend à lire, ni la lecture solitaire où vous êtes tout seul avec votre page ou votre livre, c'est une autre lecture. silencieuse qui s'appelle l'écoute. Voilà. Et un texte peut être accompagné de toute une architecture de sons, de sonorités, pour le mettre en valeur. Alors, retour à la source. La voix. Qu'est-ce que c'est la voix ? Et là, moi, je vais vous poser une question. Vous savez que quand on découvre sa propre voix dans un enregistrement, bien souvent, on la rejette, on la refuse. Peut-être que dans votre génération, ça vous est plus familier de vous enregistrer, de vous écouter. On a toujours une petite réticence vis-à-vis de sa voix quand on la découvre enregistrée. Souvent, on dit « Ah, j'aime pas ma voix », etc. Très, très courant, ça. Je ne connais presque pas d'exception. Alors, voilà. Est-ce que vous aimez vous enregistrer ? Avez-vous déjà enregistré votre propre voix ?